Merci beaucoup, Max. Je pense qu'on est présentement en contact avec M. Jean-François Roberge. M. Roberge, vous êtes là?
Oui, bonjour. Je suis désolé, la ligne a coupé.
Il n'y a aucun problème. Merci. Content qu'on a arrangé la ligne et que vous êtes là, M. Roberge. Donc, on va jaser, comme je disais, de la situation de l'immigration au Québec actuellement qui fait énormément jaser. M. Roberge, vous avez dit mardi dernier, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Est-ce que vous pensez toujours la même chose? Est-ce que vous regrettez vos paroles aujourd'hui?
Ben non, je regrette pas mes paroles parce que, écoutez, on a accueilli dans les dernières années plus de 180 000 demandeurs d'asile. C'est énorme, c'est bien au-delà de nos capacités. Année après année, on accueille toujours demandeurs d'asile qui, après l'analyse, pour ceux qui sont acceptés au Québec, deviennent des réfugiés, deviennent des Québécois, font leur vie ici. Mais on peut pas en accueillir autant. Notre capacité est dépassée. Cette phrase-là, qu'on peut pas accueillir toute la misère, ouais, du monde peut avoir là, heurté certaines personnes, mais je pense que c'est une vérité. On peut faire notre part, on doit faire notre part, on va faire notre part, mais on peut pas accueillir 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 personnes par année, en plus des étudiants étrangers, ouais, en plus des gens qui viennent comme travailleurs économiques dans nos entreprises. À un moment donné, il faut respecter aussi les Québécois qui sont en place. Il faut respecter leur capacité de payer.
Justement, M. Roberge, à quel point l'immigration au Québec est une danse délicate entre vouloir accueillir des gens pour les aider, mais en même temps, pas trop pour pas affecter nos enjeux de logement, école, garderie, santé, itinérance, crime, etc.?
Bien, je pense que vous dites bien, c'est délicat. On doit avoir des chiffres, des données, puis s'assurer que... c'est un succès pour tout le monde. Les gens qui viennent refaire leur vie ici, parfois là, des gens qui fuient la misère, la guerre, des réfugiés, puis d'autres personnes qui veulent simplement contribuer et améliorer leur sort aussi, décrocher un emploi, ben c'est deux besoins différents, c'est deux catégories différentes. On doit faire les deux, mais dans des proportions qui rendent service à tout le monde, y compris les Québécois. Et dans quelques semaines, je vais déposer un document important sur la planification pluriannuelle. On va se donner un horizon de 3 ans, sinon 4 ans. Et pour la première fois, on aura à la fois des cibles pour l'immigration permanente, des gens qui deviennent des nouveaux Québécois, puis l'immigration temporaire. Ça veut dire que ça inclut des travailleurs étrangers temporaires ou, par exemple, des étudiants qui sont ici simplement le temps de leurs études. On aura une planification intégrée. On n'a jamais fait ça au Québec, cet exercice-là, d'avoir une vision d'ensemble. On va le faire pour la première fois. Je pense que ça va rendre service à tout le monde.
Monsieur Roberge, justement, parlant de ce plan-là, on sait votre chef François Legault, il y a de ça 2 semaines, lors du passage de Pierre Poilievre à Québec, a mentionné « Hey, je suis rassuré par ses positions sur l'immigration ». Depuis ce temps, il y a Mark Carney, le chef du Parti libéral du Canada, qui a mentionné qu'il veut retourner les demandeurs d'asile vers les États-Unis. Est-ce que vous croyez que vous avez enfin réglé vos chicanes sur l'immigration avec le gouvernement fédéral, chicanes qui avaient lieu là, sous l'époque de Justin Trudeau?
Bien, je vous dirais qu'il y a eu enfin une prise de conscience, peut-être dans les 6 derniers mois à Ottawa. La fin de règne de M. Trudeau a été moins pire que la grande partie de son règne où, dans le fond, idéologiquement, là, il n'y avait aucune limite, aucune prise en considération du tissu social de la nation québécoise, aucune prise en considération de notre capacité d'accueil. Ça a changé dans les derniers mois. Là, dans la campagne, on voit que c'est un sujet de la campagne. On est bien content de ça. M. Poilievre a accepté notre demande de réduire de 400 000 à 200 000 le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire québécois qui relèvent d'Ottawa. Pour ce qui est de M. Carney, il n'a pas pris un tel engagement encore. On attend toujours et c'est important. Il reste quand même assez de jours dans la campagne pour qu'il se mouille puis qu'il prenne un engagement aussi ferme lui aussi de mieux gérer les programmes qui relèvent d'Ottawa, c'est-à-dire demandeurs d'asile puis programmes mobilité internationale. À eux seuls, c'est plus de 400 000 personnes sur le territoire québécois. C'est du jamais vu. Puis les libéraux fédéraux, dont M. Carney, doivent se faire entendre et doivent répondre à la préoccupation du Québec.
On parle justement de la campagne électorale, également des prochaines actions qui doivent être faites à moyen et long terme. Mais à court terme, c'est quoi le plan de match pour les gens qui arrivent là, par taxi, là, qui sont arrivés hier et qui vont arriver aujourd'hui à Saint-Bernard-de-la-Colle?
Oui, c'est important de dire que c'est pas... un chemin Roxham, c'est-à-dire qu'avant, les gens traversaient un peu à travers la forêt, on disait chemin Roxham, là, mais c'était une espèce de cul-de-sac. Là. Les gens finissaient par traverser sur des sentiers puis à travers le bois. C'était pas un poste frontalier. Là, ils sont au poste frontalier, notamment celui de la colle. Puis, certains demandent l'asile. Beaucoup, ce sont des gens d'origine haïtienne qui ont un statut légal aux États-Unis, mais qui voient les menaces de M. Trump là, de mettre fin à leur statut légal. M. Trump a annoncé là, qu'il résilierait leur permis. Et donc, qui cherchent un endroit, puis je comprends là, de se tourner vers le Canada ou vers le Québec. Donc, ceux qui se présentent, ben, ils ne peuvent pas traverser comme ça, puis faire une demande d'asile au Canada, à moins de faire partie de listes d'exceptions, d'être capable de prouver très clairement, avec des documents officiels, qu'ils ont réellement de la famille directe au Canada. Sinon, l'entente sur les tiers pays sûrs dit que lorsqu'on arrive dans un pays comme le Canada ou les États-Unis, on doit faire notre demande d'asile dans ce pays-là. Et on ne peut pas passer d'un pays à l'autre pour faire une demande d'asile.
Monsieur Robert, j'aimerais qu'on parle de la loi sur l'affichage. Est-ce que c'est avec les ressources qu'on a une mission presque impossible d'imposer sur les commerces, les entreprises, les items, je pense aux électroménagers, cette loi-là où on est convaincu qu'avec le plan qu'on a en place, il y aura du concret?
Non, on a le plan en place pour avoir du concret. Sur les électroménagers, le règlement est suspendu pour l'instant. On analyse nos choses, mais ce qui va de l'avant à partir du 1er juin, c'est important de le dire, on garde le cap. C'est la mise en œuvre de notre fameuse loi 96 là, qui modernise l'achat de la langue française. Et au 1er juin, il faut que les devantures des magasins, et ça inclut les devantures des magasins qui sont dans des centres d'achat, comme on dit au Québec, là. Mais les devantures doivent avoir une nette prédominance du français. Donc, si le commerce a un nom anglophone, ben, il peut garder son nom anglophone, mais il doit avoir d'autres éléments, un slogan, un descriptif, qui font que, de manière globale, là, il y a plus de français que de toute autre langue. C'est important. Ça va faire 3 ans que la loi est votée. Ça va faire 18 mois que le règlement précis, là, est connu. On a communiqué avec les unions municipales, on a communiqué avec les chambres de commerce, avec les conseils du patronat, fédération d'entreprises indépendantes. Il n'y a pas de raison pour que les commerçants ne soient pas au courant et ne se conforment pas.
Et juste à titre d'intérêt comme ça, là, comment on l'impose? Est-ce qu'il y a une police de la langue qui circule? Est-ce que le citoyen peut faire une plainte si on voit la devanture d'un commerce qui ne respecte pas la loi?
Bien, c'est l'Office québécois de la langue française qui accompagne les commerces. Donc, si vous êtes commerçant ou gérant d'un commerce, dites, peut-être qu'on est conforme, peut-être qu'on ne l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Communiquez avec l'Office québécois de langue française. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont là. Les conseillers, ils vont vous dire si votre devanture est correcte ou pas. Ils comprennent très, très bien la loi, mais c'est pas très compliqué. Là, il faut qu'il y ait, dans le fond, les 2/3 de la devanture de ce qui est visible et permanent, qui soit en français. Maintenant, oui, il peut y avoir des amendes. On n'a pas là une armée d'inspecteurs qui se promènent partout, mais c'est beaucoup via traitement de plainte. Donc, à partir du 1er juin, puis vous laissez peut-être un petit peu de temps là, aux gens de se conformer, mais à partir du 1er juin, il faut être conforme. Les gens qui porteraient plainte à l'OQLF verraient les inspecteurs faire les suites, aider les entreprises à se conformer. Puis si les entreprises ne se conforment pas, ben c'est une mauvaise idée parce qu'il y aurait une amende, puis après, il faudrait qu'ils se conforment quand même. Donc, il n'y a pas de gain à ne pas se conformer.
Je lisais dans le journal ce matin la chronique de Gilles Proulx titrée « La CAQ n'osera jamais imposer le français » où il vous accuse, Jean-François Roberge, de bomber le torse puis de jurer qu'à partir du 1er juin, Québec va serrer la vis, mais dit que ça fait 5 ans que la CAQ fait rien dans ce dossier-là puis que quand les médias anglophones vont hurler, la CAQ va prendre son trou et Satan, en fait, dit que ce serait un miracle qu'il se passe quelque chose de positif. Est-ce que c'est vrai que vous avez rien fait en 5 ans dans le dossier de la langue française? Ou Gilles Proulx sort un peu avec ses grands shows pour rien matin?
Je pense qu'il y a une mémoire sélective. Là. Écoutez, ou bien là, il me connaît moins bien mal. Quand j'étais ministre de l'Éducation, j'ai transféré directement des écoles du réseau anglophone vers le réseau francophone sur l'île de Montréal. Ça a brassé. Je l'ai fait quand même. Et on avait des articles de loi qui n'avaient jamais été utilisés par aucun gouvernement, ni libéral, ni péquiste, en passant, M. Proulx. Je l'ai fait. Je suis arrivé à la langue française, j'ai continué d'implanter la loi 96. On l'a implanté dans les cégeps. D'ailleurs, maintenant, notre charte de langue française s'applique au cégep. À chaque année, le nombre d'étudiants qui fréquentent un cégep en anglais diminue. Le nombre d'étudiants qui fréquentent des cégeps en anglais augmente. Ça, c'est l'application de la loi. cours de français obligatoire dans les cégeps, c'est la loi, je la fais appliquer. Examen obligatoire de français, même dans les cégeps anglais, pour avoir son diplôme, c'est la loi. On la fait appliquer. L'exemplarité de l'État, donc maintenant, pour recevoir des services dans une autre langue que le français, de la part du gouvernement, c'est compliqué. C'est vraiment un régime d'exception. C'est d'abord en français, puis il faut être vraiment capable d'expliquer qu'on appartient à une catégorie, puis pour obtenir un service dans une autre langue que le français, de la part de l'État, c'est très, très rare.
Qu'est-ce qu'on va aller de l'avant?
On garde le cap avec l'affichage, là, n'en déplaise à M. Proulx. On va aller de l'avant. On n'attend pas après lui pour faire respecter la langue.
Je termine avec la loi 96. Quel est votre positionnement face au fait que Mark Carney mentionne qu'il veut protéger la langue française, mais d'un autre côté, il mentionne « je vais attaquer la loi 96 jusqu'en Cour suprême ».
Ben là, écoutez, là, c'est une contradiction avec laquelle il va devoir se réconcilier. Là. Je peux pas dire « j'aime l'hiver, mais je déteste la neige ». À un moment donné, ça marche pas. Là. Je peux pas dire « j'aime la langue française, mais je vais attaquer la loi 96 ». En fait, ce que je comprends, c'est qu'il est en désaccord avec l'utilisation qu'on fait de la clause dérogatoire, là, la clause de souveraineté parlementaire, qui nous permet de suspendre la Charte canadienne des droits et libertés puis de protéger nos lois. Donc, on le fait avec notre Charte de la langue française, on le fait aussi avec notre loi sur la laïcité. Et il y a cette posture-là, dans le fond, pour les deux lois. Monsieur Poilievre, lui, a dit « Non, je respecterai la loi 96, mais je contesterai, par contre, la loi 21 sur la laïcité. » Dans le fond, les deux s'entendent sur une chose, là. Ils sont pas d'accord pour laisser le Québec aménager ses lois en utilisant la clause dérogatoire. Pourtant, cette clause-là fait partie de la Constitution. Donc, sur cet élément-là, là, les deux ont tort.
Jean-François Roberge est député de Chambly, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration au Québec. Monsieur Roberge, merci beaucoup pour votre temps ce matin.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. À bientôt. Jean-François Roberge de la CAQ.
Toujours très clair, ces explications. Moi, honnêtement, on en parlait hier et je reviens sur ce que Max disait. Simon Jolin Barrette et Jean-François Roberge sont vraiment les deux ministres qui s'illustrent le plus présentement au sein de la CAQ. Et oui, j'ai senti un ministre en contrôle de ces deux dossiers, immigration et langue française, avec nous aujourd'hui en onde. Pratiquement pas attaquable, tellement il connaît ses dossiers, ses statistiques. Il a un plan de match très clair et très établi. Donc, franchement, chapeau à M. Roberge, qui livre des combats très importants pour le Québec. Immigration en pleine crise de logement et francisation. Donc, vraiment des combats importants, justement, pour garder là, notre identité.
Et j'ai personne en tête avec le commentaire que je vais dire, mais merci à M. Roberge de ne pas fuir l'invitation de Reg Against le matin. Ça faisait un petit bout qu'on voulait jaser avec quelqu'un de la CAQ.
Ah, exactement. Merci beaucoup. Puis, Mac, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il pourrait quasiment être dans le PQ.
Ah ben oui, mais comme plusieurs caquistes. Oui. Plusieurs caquistes et PQ. Les caquistes, ça a été des péquistes opportunistes des fois, ou des libéraux opportunistes qui sont allés là dans cette coalition-là. Mais tu sais, même Bernard Drainville, on connaît son passé avec même son fameux discours à une certaine époque. Si le Québec est indépendant, M. le Président, où il passe 12 minutes de pourquoi le Québec devrait être indépendant. François Legault qui a bâti un livre sur les finances d'un Québec indépendant. Côté de la CAQ, il y en a beaucoup là, qui sont des anciens souverainistes ou qui le sont encore et qui le disent plus.
Non, bien aimé la discussion avec M. Roberge. Très posé aussi et très, comme tu l'as dit, Jeff, au courant de ses dossiers, ça c'est sûr et certain. Hey, vous le savez qu'on a ce super concours à Boulevard 101 qui s'appelle le Rock'n'Ball. Excellent concours en collaboration avec Dernier Pneus et Mécanique et Nokian Tire. Vous avez peut-être la chance de gagner ce voyage cet été à Boston pour aller voir un show de Linkin Park le 1er août au TD Garden et ensuite le lendemain, le 2 août, une partie de balle. Les Red Sox contre les Astros de Houston, mais au mythique Fenway Park. Il y a l'argent de poche, il y a le vol, il y a l'hébergement. Vous savez aussi que vous courez la chance chaque semaine de peut-être gagner vos pneus d'été. Nokian aussi, lorsque vous avez peut-être l'appel, comme hier, du trio de Rage Against le matin. Vous notez l'heure lorsque vous entendez une chanson de Linkin Park et vous allez l'inscrire sur le blvd.fm. C'est l'heure.